Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Des milliers de Téhéranais crient « Abba Israël » lors des funérailles du colonel Khodaï, assassiné le 22 mai devant son domicile à Téhéran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran défie l'hégémonie des puissances mondiales et continue de progresser. Déclaration ce mercredi matin du leader de la révolution islamique. L'Iran n'attend pas la levée des sanctions et lance un QG de la neutralisation, a déclaré ce matin le président Raïsi. Et puis l'Iran mettra tout son possible pour poursuivre l'affaire du colonel martyr du CGRI. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique affirme que l'Iran s'est opposé aux hostilités, aux inimitiés et continue de progresser. L'ayatollah Seyed Ali Khamenei a fait ses commentaires lors d'une rencontre ce mercredi avec des législateurs iraniens à Téhéran. Le leader a déclaré que l'Iran était engagé dans des défis avec les puissances mondiales parce qu'il avait porté un coup dur à leur image hégémonique. L'ayatollah Khamenei a ajouté que la rivalité hostile des puissances mondiales et leurs menaces militaires croissantes ont rendu la situation plus compliquée pour les autres pays. L'Iran n'attend pas la levée des sanctions et lance un QG de la neutralisation. L'Iran ne reportera pas ses progrès en attendant la levée des sanctions, a déclaré ce mercredi le président Raïsi, avant d'annoncer qu'un quartier général pour neutraliser les sanctions a été mis en place. Tout comme les menaces des ennemis qui n'ont jamais pu nous arrêter, nous ne resterons pas les bras croisés pour qu'on nous lève les sanctions imposées et nous ne nous stopperons pas, nous n'attendons pas que les autres décident pour nous et nous l'avons montré dans la pratique. Nous avons annoncé dans les forums officiels que notre stratégie est la même que celle déclarée par le leader de la révolution islamique en faveur de l'autosuffisance et de l'indépendance du pays. Mais en même temps, nous poursuivons la question de la levée des sanctions, a déclaré le président Raïsi. Le point important, c'est que nous avons mis en place un QG actif pour désamorcer les sanctions, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « Nous essayons de favoriser les conditions pour que ces problèmes provoqués par les sanctions imposées soient résolus et la vie des gens, leurs moyens de subsistance et leurs affaires soient améliorées afin qu'ils puissent vivre différemment du passé et que les conditions deviennent de mieux en mieux. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran utiliserait toutes ses capacités juridiques et internationales pour poursuivre les personnes impliquées dans l'assassinat d'un membre du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI à Téhéran. Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian a tenu ses déclarations dans un message adressé à la famille du colonel martyr du CGRI Hassan Sayyad Khodaei, assassiné dimanche par les terroristes devant sa maison. Il a déclaré que l'assassinat prouvait que l'Iran était à l'avant-poste de la lutte contre le terrorisme. Amir Abdollahian, rappelant que l'Iran est une victime régulière du terrorisme d'État, a fustigé le silence de certains pays qui prétendent à tort lutter contre le terrorisme et défendre les droits de l'homme. Plus tôt, le commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami, réagissant à l'incident, a promis une réponse dure de l'Iran qui ferait regretter aux ennemis ce crime odieux. L'Iran et la Russie poursuivent les négociations sur le développement des deuxième et troisième phases de la centrale nucléaire de Bouchehr. Nous négocions avec la partie russe sur le développement des deuxième et troisième phases de la centrale nucléaire de Bouchehr, a déclaré mercredi Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA. Monsieur Kamalvandi, s'exprimant en marge de la commission économique mixte russo-iranienne avec la participation du vice-premier ministre russe Alexandre Novak et du ministre iranien du pétrole Javad Oji, qui se déroule mercredi à Téhéran, a précisé que les négociations portaient sur le développement des deuxième et troisième phases de la centrale nucléaire de Bouchehr dans le sud du pays. Selon lui, la construction des deuxième et troisième phases de la centrale nucléaire de Bouchehr nécessite de gros investissements. Par conséquent, nous devons discuter des questions financières et négocier avec la Russie à ce sujet, a-t-il souligné. Des Palestiniens organisent des funérailles pour un adolescent tué par les forces israéliennes près de la ville occupée de Naplouse en Cisjordanie, tôt ce mercredi. Raïs Rafik Yamin, 16 ans, a reçu une balle dans la tête par les soldats israéliens et a été déclaré mort quelques minutes plus tard. Yamin, un élève de 10e année, a été touché lors d'affrontements qui ont éclaté après que des centaines de colons ont pris d'assaut la tombe du prophète Joseph à Naplouse. L'armée israélienne avait fourni une protection aux colons assaillants. Au moins 80 Palestiniens ont été également blessés lors des attaques. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a pointé du doigt Israël pour l'escalade des tensions en Cisjordanie. Par ailleurs, l'autorité palestinienne a exhorté la communauté internationale à rompre le silence et à fournir une protection aux enfants et aux personnes palestiniennes tuées par le régime presque quotidiennement et systématiquement. Enfin, le représentant permanent adjoint de l'Iran auprès des Nations Unies a condamné l'assassinat par Israël de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Madame Zahra Ershadi a déclaré que le meurtre de la journaliste faisait partie de la guerre de longue date et bien documentée d'Israël d'harcèlement, d'intimidation et de violence contre les journalistes. La diplomate iranienne a déclaré que le régime cible les journalistes pour dissimuler les crimes qu'ils commettent contre le peuple palestinien. Madame Ershadi a décrit Abu Akleh comme une autre victime de l'inaction de la communauté internationale face aux atrocités israéliennes continues. La diplomate a appelé les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'impunité d'Israël, assurer la protection du peuple palestinien et prendre des mesures pour tenir ce régime responsable des crimes commis au cours des décennies. Abu Akleh a été tué par balle alors qu'il couvrait un raid israélien sur la ville occupée de Jenin, en Cisjordanie, le 11 mai. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. We'll be right back. des milliers de Téhéranais crient « Abba Israël » lors des funérailles du colonel Rodaï, assassiné le 22 mai devant son domicile à Téhéran. L'attaque contre le colonel Hassan Sayyad Rodaï, qui lui a coûté la vie, s'est produite à Téhéran vers 16h locales dimanche lorsque deux motards lui ont tiré dessus à 5 reprises alors qu'il était dans sa voiture et ont pris la fuite. Dans un communiqué, le CGRI a déclaré que l'assassinat avait été perpétré par des éléments contre-révolutionnaires, ajoutant que les mesures nécessaires avaient été prises pour identifier et arrêter l'agresseur ou les assaillants. Mardi, une foule de personnes ainsi que des responsables de l'État et de l'armée ont pris part à la procession. Une cérémonie d'adieu a également eu lieu lundi soir dans la capitale en présence du premier vice-président iranien Mohammad Mohber. Plus tôt lundi, le président Ibrahim Raisi a dénoncé l'arrogance mondiale d'être à l'origine de cet acte terroriste, jurant une vengeance implacable pour le sang du martyr. Le général de division Mohammad Boreri, commandant en chef d'état-major des forces armées iraniennes, a déclaré de son côté que l'assassinat ne resterait pas sans réponse. Lundi, le mouvement du djihad islamique dans la bande de Gaza a déclaré que l'assassinat du colonel Rodaï rappelle ce qui est arrivé au chef de la résistance palestinienne, Fatih Shagaghi, qui a été tué par 6 balles le 26 octobre 1995 devant l'hôtel des diplomates à Malte, ville côtière du nord-est de Sléma, par une équipe composée de 2 agents travaillant pour l'agence espionnage israélienne, Mossad. La triste déclaration des attentats terroristes contre l'Oumma musulmane prouve la nature criminelle du régime de Tel Aviv et de ses alliés, en tant qu'ennemis jurés et pires des musulmans. Ali Boreri Kani, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a condamné dans un message sur son compte Twitter l'assassinat du colonel Rodaï, affirmant que la République islamique utilisera toutes ses capacités internationales pour traduire les assassins en justice. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, le général de division Hossein Salami, a également averti que l'Iran se vengerait durement de ceux qui ont assassiné le colonel.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'Iran ne se laissera pas intimider par les soi-disant avertissements d'Israël après la grande manœuvre de ce dernier. Alors, une chaîne importante israélienne a qualifié ces manœuvres de pistolet vide et a dit que l'Israël n'était aucunement en mesure de mettre à exécution ses menaces contre Téhéran. Surtout qu'Israël, maintenant, se sent très abandonné par les États-Unis et les pays occidentaux depuis la crise ukrainienne. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Réagissant à la plus grande manœuvre de l'armée israélienne jamais menée depuis la création du régime factice, les médias et les experts sionistes ont reconnu que ni maintenant ni dans les années à venir Israël ne pourra entrer en guerre contre l'Iran et que les menaces qu'il profère à cet égard ne sont que des mots. Les manœuvres menées par l'armée israélienne pour entrer en guerre avec l'Iran n'ont rien de nouveau et ne vont pas au-delà des mots, affirme la chaîne Kan 11 de la télévision israélienne, indiquant que les pays occidentaux, engagés dans la guerre en Ukraine, ont abandonné Israël à son sort. Ces dernières semaines, nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'Israël a l'intention de bouger, déplore la chaîne en estimant qu'Israël a tenu des manœuvres justes pour rappeler aux Occidentaux de ne pas laisser tomber leurs partenaires au Moyen-Orient, en raison de leur implication dans la guerre russo-ukrainienne. La chaîne Can 11 évoque par ailleurs la visite du ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, aux États-Unis, ainsi que celle effectuée par le commandant du CENTCOM en Palestine occupée, à l'issue desquelles aucun résultat n'a été obtenu pour remédier aux tensions avec l'Iran et à son programme d'enrichissement d'uranium. À son retour d'Amérique, Gantz a réalisé que le monde est pris par un défi bien plus grave, qui est la crise ukrainienne. Can 11 fait savoir que les experts au sein de l'Institut d'études sur la sécurité nationale ne sont pas tous de cet avis qu'Israël puisse détruire les installations nucléaires de l'Iran, ni maintenant, ni dans les années à venir. Les Israéliens, ajoutent-ils, craignent aussi que les États-Unis et l'Europe ne refusent l'option militaire contre l'Iran et ne les laissent seuls dans une région enflammée. Les Iraniens, concluent Can 11, sont donc loin de se laisser intimider par les soi-disant avertissements traduits par la tenue d'une manœuvre d'envergure en mer Rouge et d'une autre encore plus grande qui se tiendrait 2 semaines plus tard avec le déploiement des 10 d'avions de guerre.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos 2 chers invités, en commençant par Aïssar Midani, analyste politique et franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour. Aïssar Midani, est-ce que vous nous entendez? Bonjour.
Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour à vous et à tous.
Un plaisir de vous. Oui, un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Un grand bonjour à Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour Monsieur, bonjour Madame Isani, à vos auditeurs.
Voilà, vous vous connaissez bien. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire.
Non.
Oui, c'est un débat concernant le bluff israélien, le bluff qui a duré depuis des années, qui n'a jamais justement intimidé l'Iran. Alors, ma première question va s'adresser à Aïssar Midani depuis Paris. Alors, Madame Midani, pourquoi Israël insiste de continuer à bluffer et donc exercer des manœuvres qui ne vont rien donner et des menaces qui ne vont rien donner contre Téhéran?
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe, bonjour à votre invité, et puis effectivement, et à tous les téléspectateurs, effectivement, et l'État fantoche d'Israël a toujours vécu sur des bulles médiatiques, sur des mythes de ce type. D'abord, c'était le mythe de la plus grande force de frappe au Moyen-Orient, le mythe de la plus grande démocratie, le mythe de l'armée invincible, etc., etc. Et donc, ces mythes leur ont donné un petit peu de temps de survie, je dirais. Ça a joué jusqu'à un certain temps. Jusqu'au jour où la résistance palestinienne, les libanaises, et puis l'axe de la résistance, en fait, hein, ont montré la faiblesse de cet État, de ses prétentions, que Samah Hachette Nasrallah a qualifié aussi faible que les fils des araignées, le fil des maisons des araignées. En fait, effectivement, c'est un État qui est en pleine décomposition au niveau intérieur, qui est en but à la détermination du peuple palestinien qui a décidé et qui est complètement déterminé à la libération de la Palestine, à la résistance de l'ensemble de la région, en fait, à la présence de ce cancer et de ce corps étranger qui n'a absolument aucune place dans la région puisque c'est un appendice de l'impérialisme américain et européen. Donc, c'est sûr qu'ils se sentent plus que jamais faibles et donc ils ont recours de plus en plus à des manigances et des gesticulations propagandistes, médiatiques, pour jouer ce bluff. Malheureusement, ce bluff joue sur certaines parties quand même de la population. Les gens craignent peut-être, mais ce nombre de personnes, je dirais, devient de plus en plus faible. Il se réduit de plus en plus D'ailleurs, on a vu aussi que tout leur réseau d'espionnage, etc., ils ont pris un sacré coup, aussi bien au Liban qu'en Syrie, que dans l'ensemble de la région. C'est la raison aussi pour laquelle ils essayent d'avoir, par le biais des Américains et par le biais de la pression américaine sur des pays de la région comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, ils essayent d'avoir des amitiés ou des alliances qui leur permettent de se protéger, parce que c'est fait effectivement. Ils ont très très peur. Et c'est pour cacher leur peur qu'ils essayent de jouer ces jeux-là par rapport à la population, par rapport à la oui. population des colons qui ont commencé aussi, il faut le dire, à reprendre le chemin de l'émigration, donc du retour à leur pays d'origine. Et parce qu'ils n'ont plus confiance dans la protection, parce qu'ils ont peur, effectivement, de la détermination du peuple palestinien.
D'accord. Oui.
D'ailleurs, dernier point aussi qui montre leur peur, c'est cette prise d'assaut, je dirais, du peuple palestinien, mais contre le peuple palestinien, où ils ne craignent. Et ils tirent sur les jeunes, ils tirent sur les enfants, ils tirent sur les journalistes. À ce titre, je voudrais saluer quand même l'âme de la journaliste Shirin Abou Akleh. Et donc, ils tirent sur tout ce qui bouge, ce qui montre qu'ils sont dans une panique incroyable. C'est ça.
Voilà, merci. Alors, je m'adresse à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. Alors, Mme Idanib nous a parlé très bien des défaillances de la politique intérieure-extérieure d'Israël. Un pays qui a peur, donc un pays qui bluffe. Et on bluffe quand on n'a rien dans le ventre, M. Pierre Dortiguier. Vous n'allez pas me contredire. Alors pourquoi, quand on arrive à approcher des négociations, aboutir à des conclusions, des négociations concernant le nucléaire iranien, tout d'un coup, Israël essaye donc d'empêcher justement des négociations d'aboutir en exerçant des manœuvres bidons comme celles effectuées récemment?
Que l'administration américaine de M. Biden est décidée à régler cette affaire de cette fausse discussion sur le nucléaire iranien, car elle ne repose sur rien, et c'était une initiative finalement de M. Trump, vous voyez, qui était sorti unilatéralement des négociations, et donc ceci se referme. Les Américains, finalement, là, se montrent positifs ou réalistes. Les Israéliens, disons, ont deux positions constantes dans leur histoire. À la fois passer pour les victimes, voyez-vous, et agir par des menaces autoritaires sur les États mêmes qui les aident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, etc. N'oublions pas même qu'ils font des sourires jusqu'à la Russie, puisque le premier chef d'État en 2010, le russe avait quitté Israël, a été M. Poutine. Et donc, ils essaient à la fois leur politique d'être présent partout, surtout en réalité en dehors d'Israël, de l'État dit d'Israël, mais en même temps, disons, se montrer aussi, je ne dis pas autoritaire, mais comme des bouts de feu. C'est-à-dire, disons qu'ils ne peuvent pas empêcher un conflit d'éclater, qu'ils voudraient bien, mais ils n'arrivent plus à maîtriser la situation. Il y a donc deux aspects chez les Israéliens. Il y a un aspect dur, autoritaire, que l'on connaît. Il y a aussi un aspect de comédien, un aspect, disons, de joueur. En fait, la terre d'Israël, contrairement à ce qu'ils disent, ne les intéresse pas. Ce n'est qu'une étape dans une position générale qu'on dirait mondiale. Ce sont des gens qui sont aussi bien à New York qu'à Jérusalem, évidemment, vous ne pouvez pas dire que c'est une patrie. C'est un lieu dont on change comme de chemise, vous voyez. Et malheureusement, ce sont les peuples, non seulement palestiniens, mais les peuples tout alentour, qui font les frais de cette situation. Situation à laquelle, disons, ont contribué, il faut le dire, qui seront peut-être changées, mais deux grandes nations en 1947 et 48, je le répète, c'est la Russie de Staline et les États-Unis. Bon, ces deux pays sont en train de payer d'ailleurs leur aveuglement. Vous voyez, il faut se méfier des Israéliens. Ils sont à la fois victimes, ils apparaissent comme des victimes, et disons qu'ils pleurent et ils tuent. Vous voyez, c'est une chose, c'est effrayant vraiment quand on voit les choses de très près. Il ne faudra pas avoir de compliqués d'illusions, mais il faut être réaliste. Et aujourd'hui, je pense que la crise ukrainienne, la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, etc., bon, chacun le voit comme il entend, comme il le reçoit. Mais elle a, disons, ce bénéfice de rendre les gens plus positifs, en Europe même, car en Europe, vous avez un troisième personnage qui est aussi important que les Russes et les Américains. Pour Israël, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a payé tout ce que l'Israël a. Est-ce que l'Allemagne va continuer en augmentant son budget militaire? Ce n'est pas sûr. Et là, je crois que c'est une véritable inquiétude réelle à ce moment-là de la part des Israéliens. Je le dis avec en souriant du nom de M. Gantz. Vous savez que Gantz, qui est le ministre de la guerre, est le même nom que l'ancien secrétaire de Kant, le fameux philosophe au XIXe. C'est un homme d'origine allemande. Donc M. Gantz entend très très bien, disons, ce que très modestement je dis.
Absolument. Oui. Aïssa Hamidani, on a vu dans le reportage au début de l'émission que, bon, une chaîne importante de télévision israélienne a dit que Israël, les manœuvres d'Israël, qui étaient comme un pistolet vide, étaient aucunement en mesure de mettre à exécution ces menaces contre Téhéran. Donc, d'où la population israélienne qui est contre la guerre contre Téhéran, contre la guerre dans la région. Pourtant, le gouvernement continue à poursuivre ces manœuvres hostiles à l'égard de certains pays. Que pensez-vous?
Well, effectivement, et les Israéliens sont il y a un certain nombre de personnes qui sont à l'intérieur de l'administration israélienne, qui sont les responsables de guerre, qui reconnaissent les faits et qui essayent de freiner cette envie d'aller en guerre sans arrêt, d'une part, et d'autre part, il y a des politiques qui ont envie et qui sont en but aussi à une opposition politique violente et qui essayent de se... politique violente, je parle au niveau de l'administration israélienne, donc l'administration de l'occupation. Où ils essayent de gagner des voix entre eux, ils font la surenchère l'un à l'autre par ces violences. Il est sûr que au niveau des deux concurrents, la seule unité possible, c'est en tapant sur les Palestiniens et donc en augmentant la répression contre les Palestiniens. Ils espèrent créer l'unité à ce niveau. D'un autre côté, il faut qu'ils soient donc au niveau à la hauteur, je dirais, de leurs actes, au niveau de la parole. Mais ils en sont donc ils ne savent que taper sur les Palestiniens, sur des gens civils qui sont complètement désarmés, sur les femmes, sur les enfants, etc. C'est le comble de la lâcheté, en fait, mais tout ça pour faire un score au niveau de la popularité du gouvernement actuel. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que c'est quand même une entité qui reçoit des sommes très importantes d'argent, d'aide, de la part des Américains, de la part des Européens, de la part de tous les pays occidentaux de l'OTAN. Et il faut aussi qu'ils montrent qu'ils sont quand même forts et que cet argent produit quelque chose. Donc ils essayent aussi de monter le ton pour être à la hauteur d'une réputation fausse et vide qu'ils se sont créés auprès de leurs alliés américains, otaniens.
Madame Hamidani, excusez-moi de vous interrompre. Justement, vous avez évoqué les États-Unis et les pays occidentaux qui aident Israël. et fourni des armes justement à Israël. Mais récemment, on a une grande impression que Israël est abandonné par les États-Unis et des pays occidentaux un peu à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ce sont seuls, en fin de compte.
Ils ont l'impression qu'effectivement, les Américains se détournent d'eux et qu'ils ils donnent plus d'importance à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, que chez eux. D'ailleurs, toutes ces tergiversations et toutes ces gesticulations israéliennes depuis le début des discussions sur le nucléaire iranien, c'est aussi pour faire pression sur les Américains, d'une part de ne pas les abandonner et d'autre part de ne pas sortir de la région et d'autre part surtout de ne pas conclure avec les Iraniens selon les demandes exigées par l'Iran et qui sont très justes et très justifiées. Mais en fait, donc, toutes ces, je voudrais aussi souligner l'alliance qui se noue en Ukraine, pardon, avec la Turquie, qui en fait eux aussi ils aident l'Ukraine, donc ils se sont précipités pour aider l'Ukraine en armes, en personnes, en personnages, en munitions, et que donc ils essayent effectivement de montrer aux États-Unis qu'ils sont aussi à ses côtés, et en fait là ils montrent leur vrai visage, qui est aux côtés des nazis, parce que depuis des années ils ont vendu au monde entier que les gens qui veulent venir en Israël, et ce sont ces pauvres personnes qui ont été persécutés par les nazis et qu'ils sont contre les nazis. Et maintenant, on voit de manière très flagrante l'alliance d'Israël avec des pouvoirs nazis, comme le pouvoir de Zelensky, en fait, qui s'appuie sur les forces Azov et autres hordes nazies qui mènent la guerre contre le peuple ukrainien et contre la Russie. Donc voilà les choses. En fait, les masques tombent au fur et à mesure, si vous voulez. Oui. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont complices des nazis et ils sont complices, les Américains aussi, et les Européens qui, absolument, pendant des années, ont montré qu'ils sont contre les nazis et ils ont volé, je dirais, la victoire contre les nazis de la Deuxième Guerre mondiale,
oui,
qui montrent que depuis cette Deuxième Guerre mondiale, ils abritent les nazis, ils les nourrissent et ils veulent essayer d'en faire une force de frappe importante en Europe. Et que, d'ailleurs, tous ceux qui se disent démocrates, etc., y compris l'Allemagne, M. Dörtiger a évoqué l'Allemagne, qui donc payait à Israël, soi-disant, ses aides,
oui,
parce qu'ils ont été complices des meurtres nazis. Bon, maintenant, c'est effectivement, tous les masques tombent et toutes les cartes sont,
absolument,
sur table. Tout ce monde qui aide les nazis contre les peuples. Voilà.
Oui, tout à fait. Pierre Dörtiger, est-ce que vous confirmez ce que Mme Midani avance concernant du fait qu'Israël est abandonné par les États-Unis et certains pays occidentaux à cause peut-être de la guerre en Ukraine et peut-être autre chose?
Pardon, je réponds précipitamment. Bien été, monsieur. Je pense que la politique, enfin, disons, incarnée par M. Biden, va dans un sens réaliste et qu'elle a déjà été, je le disais, toujours signifiée, bien marqué par le retrait d'Afghanistan. Et je crois que, disons, chacun sait que les accusations contre l'Iran, par exemple en matière d'énergie atomique et autres, sont fausses. On les a mis en premier. Donc, disons, dans la mesure où les intérêts américains l'exigent, eh bien, le réalisme l'emporte. Bien, personne ne croit, en Europe, il n'y a aucun diplomate qui croit au danger iranien, disant que l'Iran veut des bombes atomiques Oui, en fait, c'est voisin. Je vous assure que vraiment, quand on parle en privé, qu'on est marié avec d'anciens camarades, de certains qui sont de la diplomatie ou autre, il y a très longtemps, bien sûr, à Paris, ils sont d'accord avec moi, mais bien sûr. Donc, Israël, là, joue un jeu dans lequel il ne se reconnaît plus lui-même, voyez-vous. C'est un peu une hystérie sur le plan pathologique, si vous voulez. Et comme le dit Mme Isani, il ne trouve que de solution que de tirer sur les gens, de tirer sur son propre peuple, sur le peuple, disons, qui contient un véritable camp. Vous savez, Israël a fait ça. On parle de l'époque des nazis. À l'époque des nazis, les Israéliens faisaient ça en Palestine. Vous voyez, bon. Alors, bon, je ne veux pas insister sur ce terme de nazi que je trouve inadéquat. Enfin, bon, parce que je ne vais pas créer d'incident, disons. Mais, non. Mais non. Je crois que chacun, on joue une pièce de théâtre et sanglante aujourd'hui, en Ukraine aussi, qui prépare une crise mondiale d'un point de vue économique et autre. Et je crois que nous devons nous préparer à des épreuves beaucoup plus grandes dans les temps à venir. Mais il y a un point positif pour l'Iran, pour votre patrie, qui est notre ami. Je crois que le point positif, c'est que toutes ces accusations portées contre l'Iran depuis des années sur les armements, etc., cette rupture des négociations de Vienne, tout ceci est tombé, voyez-vous. Ça, c'est une grande victoire. C'est ça qu'il faut emporter. Je n'ose pas dire que les Israéliens, leurs dirigeants sont des clowns sanglants. Vous savez, on peut toujours dire des choses mais qui ne dépasseront pas la réalité horrible de cette situation en Palestine, qui est une situation, je le répète, qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement. Voyez-vous, elle ne commence pas avec le nazisme. Elle est bien antérieure. Voilà, je pourrais dire d'autres choses, mais ça me paraît, disons, pas nécessaire, disons. Voyez-vous, je crois qu'on s'enfonce dans une querelle de mots et on ne voit pas les choses. Une dernière chose quand même, je vais dire. On parle des Allemands, oui. Vous savez, les premiers Palestiniens dans le monde n'ont pas été des Palestiniens arabes. Ce ont été tous ces Allemands qui ont été enlevés de leur patrie par millions depuis l'Est, voyez-vous. C'est-à-dire la Silésie, etc. Dans des conditions horribles. Donc, Konrad Adenauer a parlé, on n'en parle pas. Mais l'histoire est une justice, vous savez. L'histoire dira, au fond, au tribunal dernier, on verra qui est responsable de qui. Et je dois dire que dans ce domaine, permettez-moi, je conclurai là-dessus, je veux dire que l'Iran a toujours conservé une attitude honnête, probe et efficace.
Pierre Tourtiguier, vous dites que l'histoire fait la justice. Alors il faudra que les populations soient très patientes pour que la justice soit rendue.
Oui. Oh, patience, oui. Vous savez, nous avons une formule grecque, vous la connaissez. Enfin, je le dis par grec, mais la guerre, c'est le père de tout. Le père signifie le maître. Bon, et je crois que nous avançons vers un conflit mondial, pas immédiat, mais inévitable. Il faudra passer cette épreuve, et là, à ce moment-là, les choses s'éclaireront. Il faut préparer quand même notre jeunesse, nos descendants, à des épreuves terribles. Voyez-vous ? Et ça, c'est notre devoir. Le reste, disons, je le dirais simplement, le reste sera parti à Dieu.
Oui, merci Pierre Tourtiguier. Alors, Madame Midani, est-ce que vous voulez bien réagir à ce qu'a dit M. Pierre Tourtiguier ?
Malheureusement, je n'entendais pas bien son intervention. Est-ce que vous pourriez me dire juste l'essentiel, hein, en fait ?
Oui, en deux mots, il a dit que l'histoire fera la justice et qu'il faut être patient, il faut passer à l'acte pour ne pas se laisser prendre par certaines puissances, dont Israël.
Oui, effectivement, il faut passer à l'acte, mais je pense que c'est important aussi de voir le moment opportun. On est aujourd'hui dans une phase qui est très explosive, je dirais, qui pourrait déboucher en une guerre mondiale importante, nucléaire. Je pense que les Américains ne s'encombrent pas de détails à ce niveau, donc c'est important d'être très prudent. Et que de toute façon, l'État d'Israël et cette entité fantoche, elle va disparaître tôt ou tard, avec à la fois la détermination du peuple palestinien, avec aussi le renforcement de du front de la résistance aussi, parce que, y compris, on voit bien les responsables militaires israéliens, ils sont en train de s'insurger déjà contre les responsables politiques, où parfois ils disent de toute façon arrêtez, il faut, on n'ira pas, on n'est pas en mesure ni d'attaquer l'Iran ni de résister effectivement au front de la résistance, ni à Nasrallah, à Hezbollah, ni à l'ensemble. Et de plus en plus, je dirais, face à un axe à ce front qui se cimente dans la lutte aussi contre l'État d'Israël, en fait, cet État va disparaître de lui-même. Ils disent très bien que les responsables israéliens disent de toute façon le pays va être vidé sans un coup de feu qui va être tiré par le Hezbollah. Et,
absolument.
Et les forces de la de l'axe de la résistance. Donc en fait, je crois que c'est comme ça que Israël va disparaître. Effectivement, il est en voie de disparition.
Tout à fait.
Parce que je disais, l'émigration inverse, l'émigration a commencé. Ils partent tous en fait vers les pays d'origine. Et donc là, ils pensaient trouver, d'ailleurs on leur a menti aussi, parce que l'État israélien leur raconte qu'on va leur donner la belle vie, la possibilité d'avoir une maison, une voiture, un travail, etc. Ils trouvent aussi que la crise économique en arrivant, elle bat son plein, qu'il n'y a absolument aucune sécurité, qu'il y a absolument des conditions qui sont invivables. Donc ceux qui... ils partent en fait réellement.
Absolument.
Peu à peu ils partent.
Voilà. Ça,
donc oui. Pour moi l'État d'Israël va disparaître de cette manière, et bon, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils essayent de se trouver ailleurs, ils partent ailleurs, ils partent partout là.
Voilà, justement c'est pour ça que l'Iran ne prend pas très au sérieux les menaces d'Israël à son encontre. Aïssa Armidani, analyste politique franco-syrienne depuis Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Macron a choisi sa Madame Thatcher. Le président français Emmanuel Macron a nommé l'ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, au poste de Premier ministre et l'a chargée de former un nouveau gouvernement. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'une femme dirige le cabinet. Selon les médias français, Emmanuel Macron voulait nommer une femme et quelqu'un qui soit fort sur les questions sociales, environnementales et industrielles à la tête du gouvernement. Ce sont ces qualités qu'il a vues chez Elisabeth Borne, 61 ans, qui a précédemment occupé les postes de ministre chargé des Transports dans le gouvernement d'Édouard Philippe, ainsi que du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le cabinet de Jean Castex. Quant à l'expérience dans le domaine de l'environnement, sous le président français François Hollande, Elisabeth Borne a dirigé le cabinet de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal et sous Emmanuel Macron en 2019, elle a repris les fonctions de ministre de l'Environnement après la démission brutale de François de Rugy. Elle a également dû exercer des fonctions de direction dans un certain nombre d'entreprises publiques. Elle a travaillé comme directrice des chemins de fer français SNCF. Lundi après-midi, Emmanuel Macron a accepté la démission de l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui dirigeait le gouvernement depuis 2020. Cette démission est considérée comme une formalité. Cependant, cette année, cet acte est pour la première fois survenu 3 semaines après le vote au second tour. Le choix d'Emmanuel Macron est lié à la volonté de recevoir le soutien avant les prochaines élections législatives de juin, tant de la part des électeurs de gauche que des conservateurs. Dans son discours inaugural du 7 mai, il a appelé les socialistes, les sociodémocrates, les républicains de gauche prêts à conclure une alliance électorale avec le parti au pouvoir à agir ensemble. Elisabeth Borne se présente comme candidate aux élections législatives pour le parti d'Emmanuel Macron, récemment rebaptisé Renaissance. Avec la nomination d'Elisabeth Borne, le gouvernement français sera dirigé par une femme pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République. La première était la socialiste Edith Cresson, sous le président François Mitterrand au début des années 90. Elisabeth Borne est une technocrate, à l'image du Premier ministre sortant Jean Castex. Celui-ci a noté les qualités volontaires et la compétence de sa remplaçante. La nouvelle chef du gouvernement français est en fait une première ministre technique qui doit effectivement agir strictement dans le respect de la politique économique déterminée par Emmanuel Macron. Elle va devoir s'atteler aux grandes orientations telles que l'écologie, le climat, la transition vers une énergie bas carbone et surtout la réforme controversée des retraites qui n'a pas pu être réalisée dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. Dans le passé, Elisabeth Borne s'est montrée très efficace dans des situations difficiles. C'est une dirigeante coriace et maintenant, elle a une mission compliquée à accomplir. Il est curieux d'apprendre que le chef du Parti communiste français, Fabien Roussel, l'a qualifiée de « Madame Thatcher » d'Emmanuel Macron. Roussel n'est pas satisfait par la promotion obtenue par l'ancienne ministre du Travail devenue première ministre. Il lui reproche d'avoir baissé les allocations chômage pour 1 million de chômeurs, rajoutant qu'elle a préféré s'en prendre aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Fabien Roussel annonce des jours durs pour les Français car c'est elle qui a fermé la centrale de Fessenheim et aujourd'hui on est en difficulté pour s'approvisionner en énergie à bas coût. Et c'est elle qui a lancé la mise en concurrence de la SNCF et de la RATP. Elle a fait le choix du libéralisme, de la concurrence et jamais celui d'augmenter les salaires. Le baromètre d'ELAB réalisé par les Échos et Radio Classique a indiqué que 34% des personnes interrogées disaient en avoir une mauvaise image et 45% se déclaraient sans opinion. En mai, seuls 19% des Français avaient une image positive d'Elisabeth Borne.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.